Le dévoilement de Dieu numéro 94. Les deux vignes. Les attributs partagés conduisent au balamisme. Le 5 mai 2019. Brian Kozurek. Pasteur. Ce matin, je voudrais examiner le cinquième attribut partagé entre la vraie vigne et la fausse vigne. Et Esther le suivant, la vraie vigne et la fausse vigne offrent sincèrement des sacrifices à Dieu. 5. Par conséquent, la vraie vigne et la fausse vigne offrent sincèrement des sacrifices à Dieu. Oui, sincèrement. Maintenant, c'est important parce que jusqu'à présent dans notre série, nous avons vu que la vraie vigne et la fausse vigne naissent au cours du même réveil. Et étant donné que cette naissance est engendrée lors d'un réveil, et même ce réveil du temps de la fin comme William Branham l'a dit du réveil associé à son ministère, cela signifierait que la vraie vigne et la fausse vigne croient au même Dieu, et nous voyons aussi qu'étant donné que Esther a un réveil qui a causé leur naissance, par conséquent, la vraie vigne et la fausse vigne sont tous deux religieux, étant nés du même réveil. Et non seulement ces deux vignes sont religieuses, mais nous avons également constaté que, comme leur naissance était pendant le même réveil, naturellement, tous les deux adorent Dieu, et non seulement ils adorent, mais ils adorent le même Dieu. Ils partagent ces quatre attributs parce qu'ils sont nés lors du même réveil. Maintenant, cela nous amène, ce matin, au cinquième attribut partagé de cette naissance lors du réveil Esther que non seulement ils adorent le même Dieu, mais que l'adoration les conduit également à faire des sacrifices à Dieu. Alors, nous devrions nous poser la question, qu'est-ce que cela signifie d'offrir un sacrifice à Dieu? Et nous trouvons notre réponse auprès de l'apôtre Paul dans Romains 12. Romains 12.1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. De Néhémie vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Très bien. Alors nous voyons que le sacrifice que nous étudions n'est plus le genre de sacrifice de l'Ancien Testament où nous voyons les hommes offrir à Dieu le sang des taureaux et des boucs pour l'expiation de leurs péchés. Car l'apôtre Paul nous dit que tout a été aboli par le sacrifice du Fils premier-né de Dieu, Jésus. Hébreux 10.1 En effet, la loi, qui possède du nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, Néhémie peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. De autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Autrement dit, s'ils étaient devenus parfaits, il n'y aurait plus besoin d'offrir de sacrifices. Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. 3. Mais le souvenir des péchés est à renouveler chaque année par ses sacrifices. 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. 6. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ainsi, Dieu n'a pris aucun plaisir dans les sacrifices des hommes, parce qu'ils ont continué dans le péché. Maintenant, cela devrait vous en dire plus sur le sacrifice d'une fois pour toutes du Fils aîné, et, Esther, ce sacrifice dont Paul parle dans Romains 12. Et au verset suivant, nous lisons dans Hébreux 10, nous voyons quoi consiste à ce sacrifice de Jésus. C'est alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. 9 Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose, il a aboli le sacrifice de l'Ancien Testament qui Néhémie pouvait changer le cœur et la volonté de l'homme, pour établir la seconde. Afin qu'il puisse établir le cœur de l'homme. 10 Esther en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. 11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices. Qui Néhémie peuvent jamais ôter les péchés. 12 Lui, cet homme. Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés. S'Esther assis pour toujours à la droite de Dieu. Très attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. 14. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Maintenant, revenons à Romains 12.1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Or, l'apôtre Paul Néhémie contredit pas ses propos dans Hébreux 10 concernant le sacrifice d'une fois pour toutes de Christ pour tous nos péchés. Mais il établit plutôt que le sacrifice que nous présentons à Dieu, c'est Esther le cœur qui est né de nouveau et changé à la ressemblance de son Fils. Nous voulons donc examiner cette idée que la vraie vigne et la fausse vigne offrent des sacrifices à Dieu. Mais comme ce fut avec Caïn, Dieu n'accepte pas un certain type de sacrifice, alors qu'avec Abel, il a accepté un autre type de sacrifice. Maintenant, Néhémie vous focalisez pas sur le sacrifice qu'Abel a offert, car c'est Esther le sacrifice qui a été aboli en Christ. On nous dit dans Hébreux 11.4 Esther par la foi, la révélation, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est Esther par elle qu'il fut déclaré juste, correctement sage, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est Esther par elle qu'il parle encore, quoique mort. Par la révélation, ce n'était donc pas un sacrifice provenant de son imagination ou de son intellect. Mais c'était plutôt quelque chose que Dieu lui avait révélé de faire, et il l'a fait en obéissance à Dieu. Et c'est Esther ce dont parle Jean 14.12. Tout Esther question d'obéissance à Dieu. Car aucun homme Néhémie peut faire les choses de Dieu, à moins que Dieu Néhémie les fasse par lui. Car c'est Esther Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens 2.13. Revenons donc dans le livre de la Genèse pour voir cette grande chose qui est Esther arrivée à Abel, dont l'apôtre Paul parle dans Hébreux 11. La Bible dit dans Genèse 4.3 au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Nous voyons donc ici, au verset 3, que le tout premier offrande ou sacrifice offert à Dieu le fut par Caïn. Il n'Esther pas dit qu'Abel fut le premier à offrir un sacrifice. Mais il Esther très clairement dit que c'est Esther Caïn qui fut le premier à offrir un sacrifice à Dieu. Puis nous lisons au verset 4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Remarquez ces mots, de son côté, cela nous dit que Caïn fut le premier à offrir un sacrifice à Dieu et ensuite Abel. En fait, la concordance de Strong montre cette expression de son côté, utilisée en parlant du sacrifice d'Abel, signifie en fait après. Là, c'est Esther très clair. Mais remarquez, même si Caïn était le premier à sortir des starting blocks, pour ainsi dire, cependant Dieu Néhémie portait pas un regard favorable à son sacrifice. Maintenant, naturellement vous penseriez, Caïn était le premier et donc ce qu'Abel a fait était de copier son frère. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu l'a vu. Il a vu la façon dont Abel, pour offrir un sacrifice, a attendu jusqu'à ce que Dieu lui montre comment et quoi offrir en sacrifice. Par conséquent, Abel a fait preuve de dépendance totale à l'égard de Dieu, pour lui montrer quoi faire au moyen de ce qui lui avait été révélé. Et c'est ce à quoi l'apôtre Paul fait allusion dans Romains 12 lorsqu'il dit, selon la version GW de Romains 12.1 frères et sœurs, au vu de tout ce que nous venons de partager sur la compassion de Dieu, je vous encourage à offrir vos corps en sacrifice vivant, dédié à Dieu et lui étant agréable. Ce genre d'adoration est approprié pour vous. De Néhémie, devenez pas comme les gens de ce monde. Au lieu de cela, changez votre façon de penser. Alors vous pourrez toujours déterminer ce que Dieu veut vraiment, ce qui est bon, agréable et parfait. Permettez-moi de lire ceci dans plusieurs autres traductions afin que nous ayons une meilleure idée de ce dont parle l'apôtre Paul. Et puis voyez si ce n'est pas exactement la chose que Christ Jésus a offert à Dieu avec son sacrifice, d'une fois pour toutes, pour nous. Dans la version Le Message de Romains 12.1-2, alors voici ce que je veux que vous fassiez. Dieu aidant, prenez votre vie quotidienne et ordinaire, votre sommeil, votre alimentation, votre travail et votre marche dans la vie, et placez cela devant Dieu comme une offrande. Embrassez ce que Dieu fait pour vous et c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour lui. Néhémie, vous adaptez pas à votre culture à laquelle vous vous adaptez, sans même y penser. Au lieu de cela, fixez votre attention sur Dieu. Vous serez changé en profondeur, de l'intérieur vers l'extérieur. Vous reconnaîtrez facilement ce qu'il attend de vous et y répondrez rapidement. Contrairement à la culture autour de vous, vous entraînant toujours à son niveau d'immaturité, Dieu fait sortir le meilleur de vous, développe en vous une maturité bien solide. Romains 12.1-2 Sester, pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs, par les miséricordes de Dieu, à présenter vos corps vous consacrant entièrement, vous mettant à part, comme un sacrifice vivant, saint et bien agréable à Dieu, ce qui est votre acte spirituel d'adoration. De Néhémie, vous conformez pas à ce monde avec ses valeurs et ses coutumes superficielles, mais soyez transformés et progressivement changés au fur et à mesure que vous mûrissez spirituellement par le renouvellement de votre pensée, en vous concentrant sur les valeurs et les attitudes pieuses, afin que vous puissiez vous prouver qu'elle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, acceptable et parfait dans son plan et son dessein pour vous. Maintenant, si nous combinons ce que Paul dit ici dans Romains 12.1-2 avec ce qu'il dit dans Philippiens 2.13, nous le lirons ainsi, c'est pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs, par les miséricordes de Dieu, à présenter votre esprit et votre corps à la volonté de Dieu et à la puissance de Dieu agissant et vous dynamisant pour devenir un fils obéissant qui se sacrifie et ce qui sera votre acte spirituel d'adoration. Maintenant, revenons en arrière et voyons comment Dieu a réagi au sacrifice de Caïn, qui était enfin un excellent sacrifice, parce que c'était un sacrifice de la saison de la moisson ou de la saison de l'enlèvement. Mais remarquez que celui d'Abel était un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ce qui veut dire que comme le sacrifice de Caïn se trouve dans Deutéronome 26 comme étant le sacrifice de la saison de la moisson, cependant Dieu n'y a pas porté un regard favorable, parce que c'est hors saison. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché tel que l'apôtre Paul a dit dans Hébreux 9.22. C'est pourquoi le sacrifice de Caïn, bien que biblique, n'était cependant pas de saison, et c'est pourquoi Dieu n'y portait pas un regard favorable. Ainsi Caïn connaissait le plan de Dieu, et il a préparé un sacrifice d'enlèvement, et quand son premier-né Esther venu au monde, il l'appela également Enoch, sachant qu'Enoch devait être enlevé selon la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans les constellations. 5000 Dieu n'émit portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Si c'est l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est stérile abattu? C'est certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal à qui? Le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alors pourquoi est-il dit que Dieu porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel mais pas sur celui de Caïn? Eh bien, tout d'abord, l'expression porte un regard favorable signifie estimer ou honorer, montrer de l'égard ou de la considération pour. Ainsi, si le sacrifice d'Abel a attiré l'attention de Dieu, c'est parce qu'il reflétait les doxa même de Dieu, qui estère l'estimation ou les valeurs de Dieu. Ce sacrifice était méritoire en ce qu'il reflétait ce que Dieu acceptait. Et celui de Caïn n'a pas reçu un regard favorable, ni n'a été estimé parce qu'il n'a émis, reflétait ni n'a émis, montrait ce que Dieu valorisait. Alors qu'estère ce que Dieu valorisait plus que tout? Sa propre parole. Et l'apôtre Paul nous dit dans Hébreux 11.4 s'ester par la foi, la révélation, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. S'ester par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et s'ester par elle qu'il parle encore, quoique mort. Remarquez que Caïn est venu adorer Dieu en premier, mais il a apporté ses propres idées sur ce qu'il pensait serait agréable à Dieu, qui était la beauté et la bonté. Mais Dieu a regardé le fait que le sacrifice d'Abel reflétait les doxa de Dieu, les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu. Les pensées même du plan de Dieu pour sa vie. Et par la révélation, il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc, la vraie vigne et la fausse vigne font des sacrifices sincères à Dieu. Mais ce n'est pas le sacrifice qui compte mais ce qui compte, c'est le reflet de l'idéal de Dieu dans ce sacrifice. Et c'est pourquoi Dieu porta un regard favorable à celui d'Abel tout en n'ayant aucun égard pour celui de Caïn. Examinons un autre couple de jumeaux, Moïse et Balaam. Frère Branham dit dans son sermon Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Psaume 6 août 55-41. Regardez Corée, Moab dans la Bible. Lorsqu'Israël est venu, il y avait chaos. Tira Moab, qui était issu des fils de Lot, qu'il avait eu avec sa fille. Et ils avaient un grand bâtiment, une grande église. Et lorsqu'ils sont allés là pour mouder Israël, eh bien, 1. Ils ont dressé le même genre d'autel. 2. Ils ont prié le même Dieu. 3. Ils ont offert les mêmes sacrifices, le taureau. Et ils ont offert une brebis, ce qui représentait la venue de Christ. Et 4. Fondamentalement parlant, tout ce que Moïse offrait là en bas, Balaam l'offrait ici en haut. Ainsi, si tout ce que Dieu exige c'est un enseignement fondamentaliste et intellectuel, Dieu Néhémie pouvait pas refuser l'offrande du Balaam. Mais la raison, eh bien, qui montre qu'il avait rejeté Balaam et avait accepté Moïse, c'est qu'il y avait des signes et des prodiges. Dieu confirmait cela. Ils avaient la guérison divine, un serpent d'airain. Ils avaient un rocher frappé. Ils avaient la joie. Ils avaient la conduite de l'esprit. Ils avaient la colonne de feu. Ils avaient tout au milieu d'eux, des signes et des prodiges, Dieu confirmant qu'il les avait agréés. Maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez un instant à ce qu'il vient de dire. Il a dit, la raison, eh bien, qui montre qu'il avait rejeté Balaam et avait accepté Moïse. C'est-à-dire qu'il y avait des signes et des prodiges. Dieu confirmait cela. Ils avaient la guérison divine, un serpent d'airain. Ils avaient un rocher frappé. Ils avaient la joie. Ils avaient la conduite de l'esprit. Ils avaient la colonne de feu. Ils avaient tout au milieu d'eux, des signes et des prodiges, Dieu confirmant qu'il les avait agréés. Maintenant, toutes ces choses que Dieu fit d'une façon surnaturelle Néhémie, pouvaient pas être produites par Balaam et les enfants de Moab pas plus, que par tout autre groupe humain. Alors quand on en vient directement au fait, la seule façon par laquelle ils auraient pu avoir des signes parmi eux, c'était par la présence surnaturelle de Dieu parmi eux. C'est ça. Dieu Néhémie les a pas agréés à cause des signes et des prodiges, car les signes et les prodiges sont des actes de Dieu. Donc de dire que Dieu les a agréés pour ce que Dieu a fait pour eux, c'est dire que Dieu a rejeté Moab à cause de ce que Dieu n'a pas fait pour eux. Par conséquent, si Moab avait des signes et des prodiges, Dieu les aurait-il reçus? Et la réponse n'est pas dans les signes et les prodiges mais en Dieu lui-même. La raison pour laquelle il y avait des signes et des prodiges était le choix de Dieu. Israël n'avait rien à voir avec cela pas plus, que Moab n'avait rien à voir avec le fait de Néhémie pas les avoir. Frère Branham dit, ils avaient un rocher frappé. Ils avaient la joie. Ils avaient la conduite de l'esprit. Ils avaient la colonne de feu. Et par conséquent, ils avaient les signes et les prodiges, qui étaient une indication qu'un être surnaturel était au milieu d'eux. Ce pourquoi je n'ai mis, veut pas que vous compreniez mal à qui? C'est parce que nous avons l'onction pour tout le monde. Mais ce qui fait la différence, c'est ce qu'ils enseignent. Les faux ont autant de la fin ont la même onction, mais ce qui les rend différents faux, c'est ce qu'ils enseignent. Maintenant, examinons notre pensée que frère Branham nous présente dans son sermon La Semence de Discorde le 18 janvier 65 où il dit, 61 remarquez cette grande chose que Balaam a faite. Elle a continué. Et continué. Pour finalement aboutir à la venue de Judas Iscariot. Et de Jésus. Qu'était-ce? Judas et Jésus étaient tout à fait l'image de Caïn et Abel. En effet, comme Judas était religieux, Caïn aussi était religieux. Caïn a construit un autel. Il a offert un sacrifice. Il a adoré Dieu. Il l'a fait avec tout autant de sincérité que l'autre. Mais, voyez-vous, il n'avait pas la révélation de ce qu'était la parole. Il pensait qu'Adam et Ève avaient mangé des pommes ou des fruits. Et Caïn, Abel, par révélation, savait que c'était faux. C'était à cause du sang qu'il s'était retrouvé dehors. Alors il a offert un agneau. Et Dieu a attesté que son offrande était juste. L'autre devint alors jaloux et chercha à tuer son frère. Et, de même qu'il a tué son frère sur l'autel même où le sacrifice de celui-ci était mort, l'agneau était mort sur l'autel. De même Judas Iscariot, a livré Jésus-Christ sur l'autel de Dieu, et il l'a tué, tout comme Caïn avait tué Abel. En effet, Caïn était la semence de discorde. 62 et en Esther de même pour Balaam, le prophète mercenaire, un homme qui aurait dû être plus avisé. Dieu l'a mis en garde par des signes et des prodiges, même s'il ne lui a parlé en langue inconnue, et malgré tout ça, il a continué quand même. Il était né pour être un semeur de discorde. Remarquez, frère Branham dit, Balaam avait également des signes et des prodiges. Il dit, Dieu l'a mis en garde par des signes et des prodiges, même s'il ne lui a parlé en langue inconnue, et malgré tout ça, il a continué quand même. Il était né pour être un semeur de discorde. Quelle était donc cette discorde dont il parle ici? Le mot discorde signifie l'état ou la qualité d'être discordant ou en désaccord, comme de montrer une différence inattendue ou inacceptable. L'incohérence, un exemple de différence ou d'incohérence, Nous pouvons donc voir que la fausse vigne est la fausse non pas parce qu'ils partagent certains attributs similaires à la vraie vigne, mais ils sont faux parce qu'ils sont discordants, différents et incohérents quand on en vient à la parole de Dieu. Dans son sermon Les cinq identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant dimanche septembre 66, frère Branham dit, 62 quand Israël sortit de l'Égypte, il y avait Moab, une grande nation organisée, il y avait aussi Esaü, une grande nation organisée. Et voici que s'amena Israël, un interdénominationnel. Fondamentalement, tous deux étaient dans la parole. Rappelez-vous, Balaam offrit le même sacrifice qu'Israël, sur cet autel. C'est-à-dire ce que Dieu exigeait, cet sacrifice pur, cet bélier, ce qui parlait de la venue du juste. Fondamentalement, tous deux avaient fait la chose juste, fondamentalement parlant. Alors arrêtons-nous pendant un instant maintenant pour scruter ce qu'il dit ici. Les deux groupes ont adoré le même Dieu. Pas vrai? Les deux ont sincèrement offert les mêmes sacrifices au même Dieu. Pas vrai? Sept taureaux. Ce qui parlait de cet âge de l'Église. Et sept béliers. Ce qui parlait de la venue du Messie. Pas vrai? Alors il se peut que vous pensiez charnellement, pourquoi l'un a été justifié et l'autre né mais il n'a pas été? Pourquoi l'un avait raison et l'autre tort? Ils ont tous les deux chanté les mêmes cantiques dans leurs églises. Ils ont tous les deux enseigné à partir de la Bible. Ils ont tous les deux présenté les mêmes enseignements fondamentaux de la Bible. Ils ont tous les deux adoré le même Dieu et ils ont tous les deux offert à Dieu des sacrifices identiques. Alors pourquoi Dieu a agréé un groupe et pas l'autre? Maintenant, gardez cette pensée, alors que nous en lisons un peu plus. Dans son sermon Les événements modernes rendus clairs par là, prophétie 26 décembre 65 frère Branham dit, 109 est bien. On voit évidemment que Balaam Néhémie pouvait pas comprendre. Il alla et regarda le peuple d'en haut. Il dit, eh bien un instant. Nous sommes ici en haut un grand et puissant peuple. Et vous n'êtes qu'un groupe éparpillé. Vous voyez? Et nous tous nous croyons le même Dieu. 110 c'était vrai. 1. Ils croyaient tous le même Dieu. 2. Tous. Ils adoraient Jéhovah. 3. Considérez le sacrifice de Balaam, cet autel. Le nombre parfait de Dieu, cette église. Voyez. Saint Bélier. Parlant de la venue du Seigneur. 4. Quant au fondement. Il était aussi fondamentaliste que Moïse. Mais. Voyez-vous? 5. Il n'avait pas de confirmation divine. 6. Là. Tous les deux étaient prophètes. 111. Mais avec le ministère de Moïse. Il y avait une colonne de feu surnaturelle. Une lumière qui était suspendue au-dessus du camp. Il y avait la guérison divine. Et il y avait un chant de triomphe royal dans le camp. De grands signes. La guérison divine. Des prodiges et tout était accompli au milieu d'eux. Et pourquoi y avait-il tout cela dans le camp de Moïse et pas celui de Balaam? Il nous le dit dans la prochaine pensée. C'était le signe de la présence du Dieu vivant parmi son peuple. 112 fondamentalement. Tous les deux étaient dans le vrai. Mais Balaam a cherché à persuader le peuple. À les entraîner là-dedans par la séduction. Quand? Juste avant qu'ils atteignent la terre promise. Encore un ou deux jours, et ils seraient dans la terre promise. Alors quel était cet envoûtement du peuple? Parce que frère Branham nous fait savoir que cet envoûtement est venu juste avant que le peuple Néhémie traverse la frontière, et à cause de cet envoûtement, ils Néhémie sont pas entrés dans la terre promise et ont dû avoir encore 40 ans d'errance que nous savons typifie les gens qui se posent beaucoup de fois des questions. Autrement dit, lorsque leur pensée erre, ils commencent à se poser des questions. La communion par la réconciliation du 110 5 juin 55 20. Or, lorsque Dieu les avait sous son contrôle total, Il marchait avec lui et s'entretenait avec lui dans le jardin. Mais dès que l'homme a perdu sa communion avec Dieu, il est devenu un vagabond, errant çà et là, n'ayant aucun endroit où aller, il était ballotté. C'est ce que l'homme devient aujourd'hui. Tenez, maintenant écoutez. Lorsqu'un homme sort de la communion d'avec Dieu, il devient un vagabond, il va çà et là adhérer à une église, et il quitte celle-là pour aller adhérer à une autre. Il n'y trouve pas satisfaction ici, il va chez les méthodistes. De chez les méthodistes, il va chez les baptistes, et ensuite chez les pentecôtistes, chez les pèlerins de la sainteté. Il va de lieu en lieu, il erre, parce qu'il a perdu la communion avec Dieu. Si vous refusez une église ici et une église là, peut-être le problème c'est vous. Vous trouvez la communion partout où il fait bon vivre, du moment que vous avez la communion avec le Seigneur. Amen. C'est un peu dur, mais c'est bon. Cela vous redresse un peu, vous. Cela contient plus de vitamines que tous les drugstores qui existent dans cette ville. Amen. Cela vous donne la joie, la paix, l'intelligence, la confiance lorsque vous avez communion avec le Seigneur. Or, remarquez dans le livre de Jude 1.11 nous lisons, « 11 malheur à eux. Car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. 12 Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, 13 Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres resta réservée pour l'éternité. Or remarquez ceux-là, qui se sont laissés prendre par la doctrine de Balaam, sont appelés des astres errants. Dans son sermon La plus grande bataille jamais livrée dimanche 11 mars 62, frère Branham nous dit ce que cela signifie. 52 Comme le dit la Bible, des astres errants, dans le livre de Jude, rejetant l'écume de leurs impuretés. Nous n'y voulons pas être des astres errants, se demandant si ceci est juste. Se demandant si cela est juste. Se demandant si la chose va arriver. Se demandant si. Comment la chose pourrait se faire. N'y vous demandez pas. Restez là comme ces astres du ciel. Comme un vrai soldat à son poste de devoir. Tenez-vous là. Avec foi. La vie et la mort. À nouveau nous lisons dans 2 Pierre 2.15 après avoir quitté le droit chemin. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aime le salaire de l'iniquité. Or il se peut que vous disiez, je n'y comprends pas. Balaam a quitté le droit chemin. Je pensais qu'il adorait le même Jéhovah que Moïse. Je pensais qu'il était aussi fondamentaliste que Moïse dans son sacrifice. Alors comment aurait-il pu quitter le droit chemin si ce qu'il faisait était fondamentalement la même chose que Moïse et celui qu'il adorait était le même Dieu? Mais remarquez qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore vu. Jude nous dit, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement du Balaam. Alors quel était cet égarement de Balaam? Et pourquoi Pierre a également parlé de Balaam, qui aime le salaire de l'iniquité? Eh bien, examinons d'abord l'égarement du Balaam. Balaam était le prophète mercenaire de Dieu. Il était motivé par l'argent. Il a été engagé pour aller maudire Israël, mais il savait, d'après ce que Dieu a dit à Abraham, que celui qui bénit Israël sera béni et celui qui maudit Israël sera maudit. Les gens veulent attribuer à Balaam le mérite d'avoir dit, celui qui bénit Israël sera béni et celui qui maudit Israël sera maudit, et ils agissent comme si cela était adressé directement des lèvres de Dieu à Balaam. Mais ce n'était pas d'abord venu de Balaam. Cela était venu d'Isaac qui a dit, alors qu'il imposait les mains à Jacob dont le nom a été changé en Israël après qu'il a reçu ses paroles lors de la prière du droit d'aîné d'Isaac pour lui. Et étant donné que les Moabites étaient les enfants de Lot qui était le neveu d'Abraham, ce qui ferait d'eux les cousins d'Isaac, c'est-à-dire ce qu'il a fait, ils ont su ce que Dieu a dit, par Isaac, à son fils Israël. Ainsi Balaam étant prophète, connaissait également la parole de Dieu, et il l'a cité à Balak, le roi des Moabites. Mais remarquez que Dieu lui a exprimé sa volonté et quoi faire, et il a continué à aller auprès de Dieu, pour voir si Dieu changerait d'avis au sujet de sa parole. Et qu'est-ce ce qui l'a motivé à agir ainsi? L'argent. Il a continué d'y aller pour l'argent, les honneurs et la célébrité, et Dieu a dû envoyer un ange muni d'une épée dégainée pour le stopper en chemin pour aller maudire Israël. Ainsi, ici, nous examinons nos motifs. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Est-ce pour l'argent? Ou est-ce en obéissance à Dieu? C'est-ce pourquoi je dis aux frères, lorsque je suis invité pour tenir des réunions dans certains endroits, je leur dis, je dois connaître la pensée de Dieu, soit pour y aller soit pour ne pas y aller. Je n'y vais pas pour être vu, ni pour être populaire. Car croyez-moi, la Bible dit, un prophète, un prédicateur n'est méprisé que parmi les siens. Marc 6.4 Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. Et je crois que c'est parce que sa propre famille et son propre peuple ont leurs yeux sur le vase et non pas sur le Dieu qu'ils servent. Nous lisons dans Genèse 27.26 Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc, et baise-moi, mon fils. 27 Jacob s'approcha, et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit, et dit, voici, l'odeur de mon fils Esther, comme l'odeur d'un champ, que l'Éternel a béni. 28 Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. 29 Que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Maintenant, comparons cela avec ce que Balaam dit dans Nombre 24.8 Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leurs osées, et les abat de ses flèches. 9 Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Une dernière écriture sur Balaam, nous la voyons dans Apocalypse 2.14 Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est-à-dire que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak et à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Alors quelle était la doctrine de Balaam? C'était de rassembler les gens sous prétexte qu'ils adoraient le même Dieu, de rassembler les gens, sous prétexte qu'ils étaient fondamentalement les mêmes, de rassembler les gens, sous prétexte qu'ils ont les mêmes sacrifices, le même livre de cantiques, la même adoration, de rassembler les gens, sous prétexte que tout semblait être la même chose, alors, ils ont naturellement pensé, pourquoi n'aimer pas se rassembler? Mais nous en sommes avertis dans l'exposé des 7 âges de l'Église. Résumé des âges de l'Église. Page 370-370-37 Seconde étape était la doctrine de Balaam, décrite dans Apocalypse 2.14, par laquelle Balaam avait indiqué à Balak le moyen de faire tomber les enfants d'Israël par une réunion d'unité. Là, les participants allaient faire encore deux choses contraires à la parole de Dieu. Vous vous souvenez que Balak avait besoin d'aide pour conserver son royaume. Sester au personnage spirituel le plus en vue de l'époque, à Balaam, qu'il Sester adressé. Balaam lui a donné le conseil qui a piégé Israël et l'a conduit à la destruction. Il s'agissait, d'abord, de leur suggérer de se réunir tous pour discuter, pour manger ensemble et pour aplanir leurs différends. Après tout, la compréhension mutuelle peut faire beaucoup de choses. Une fois ceci acquis, on a une bonne base pour continuer. L'étape suivante, ce serait de rendre un culte ensemble, bien sûr, en insistant un peu. L'hôte peut en général pousser les invités à aller beaucoup plus loin qu'il l'avait prévu au départ. Et ce n'est-ce pas arrivé qu'à l'Église de Dieu de l'Ancien Testament, mais aussi à l'Église du Nouveau Testament. En effet, il y eut un empereur qui, comme Balak, avait besoin d'aide pour asseoir son royaume. Constantin a donc invité l'Église chrétienne de nom, la première Église de Rome, à l'aider à rassembler derrière lui les chrétiens, qui représentaient un groupe très important. Le résultat fut le Concile de Nicée de l'an 325. Les vrais chrétiens et les chrétiens de nom s'y réunirent, invités par Constantin. Les vrais chrétiens n'avaient strictement rien à faire à cette réunion. Malgré tout ce que Constantin a pu faire pour les unir aux autres, les vrais croyants savaient qu'ils n'étaient pas à leur place, et quittèrent le rassemblement. À ceux qui sont restés, en revanche, Constantin donna accès au trésor de l'État, à la puissance politique et à la force publique. On apprit aux gens à adorer les idoles et à pratiquer le spiritisme. En effet, on plaça dans les édifices des statues portant le nom des saints, et on enseigna aux gens à communier avec les morts, Sester à dire à prier les saints, ce qui n'est ni plus ni moins que du spiritisme. À la place de la nourriture véritablement nécessaire à l'homme, la parole de Dieu, on leur donna des credos, des dogmes et des rites, imposés par l'État, et pour couronner le tout, on leur fit trois dieux à partir du nom en trois parties du seul vrai Dieu, et le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ céda la place au baptême païen des trois titres. À nouveau dans l'exposé des sept âges de l'Église. Résumé des âges de l'Église. Page 371 nous lisons, 371-2 mais examinez bien cette doctrine du Balaam. En premier lieu, remarquez qu'il s'agit de la manœuvre délibérée d'un clergé corrompu, visant à lier les gens à eux en les entraînant volontairement dans le péché de l'incrédulité. Les doctrines nicolaïtes, c'était la corruption du clergé, qui cherchait à établir un pouvoir politique en son sein. Le balamisme, c'était le fait de soumettre les gens à leur système de credo et de culte pour garder la main sur eux. Mais remarquez bien, qu'est-ce qui a lié les gens à l'Église de nom, et qui les a par la même détruits. C'était les credos et les dogmes, dont on avait fait des principes d'Église. C'était les doctrines de l'Église catholique romaine. On a émis l'ordonne n'est pas la vraie nourriture, la parole. La nourriture qu'on leur donnait, c'est-à-dire celle qui provenait du culte des idoles, le paganisme de Babylone affublé de termes chrétiens. Et le même esprit, la même doctrine est-elle là parmi tous les protestants, ils l'appellent la dénomination. Le nicolaïsme, c'est-à-dire l'organisation, c'est-à-dire d'humaniser la conduite de l'Église, qui échappe ainsi à la conduite de l'esprit. Le balamisme, c'est-à-dire le mouvement dénominationnel, qui remplace la Bible par un manuel d'Église. Et jusqu'à ce jour, beaucoup de gens, parmi le peuple de Dieu, restent captifs dans le piège des mouvements dénominationnels, et Dieu leur crie, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous n'ayez mis participiez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Vous voyez, ils sont ignorants. Mais si l'enlèvement avait lieu maintenant même, L'ignorance Néhémie pourrait en aucun cas être invoquée pour faire appel du jugement que Dieu prononce sur ceux qui sont du mauvais côté. Exposé des sept âges de l'Église. L'âge de l'Église de Pergame. Page 202-202-3. Quand Balaam demanda à Dieu la permission d'y aller, Dieu la lui refusa. Oh! Quelle gifle! Mais Balak insista, en promettant une récompense et des honneurs encore plus grands. Alors Balaam retourna voir Dieu. Maintenant, une seule réponse de Dieu aurait dû lui suffire. Mais cela n'a pas suffi pour l'obstiné Balaam. Quand Dieu vit sa perversité, il lui dit de se lever et d'y aller. Balaam s'empressa de sceller son ânesse et de partir. Il aurait dû comprendre que ce n'était que la volonté permissive de Dieu, et que Néhémie ne pourra pas les maudire. Dut-il y retourner 20 fois et essayer à 20 reprises. Comme les gens d'aujourd'hui ressemblent à Balaam. Ils croient en 3 dieux. Se font baptiser en 3 titres au lieu de se faire baptiser dans le nom. Et pourtant Dieu envoie l'Esprit sur eux comme il l'a envoyé sur Balaam. Et il continue, en croyant être exactement dans le vrai alors qu'en fait ils sont de parfaits Balaamites. Voyez-vous, c'est la doctrine de Balaam, on y va quand même. On n'en fait qu'à sa tête. Ils disent, Dieu nous a bénis. Alors nous devons avoir raison. Je sais qu'il vous a béni. Je n'ai émis pas cela. Mais c'est la même démarche d'organisation que celle de Balaam. C'est se moquer de la parole de Dieu. C'est un faux enseignement. Et finalement, nous lisons exposé des 7 âges de l'Église. L'âge de l'Église de Pergame. Page 189-189-2. Dans cet âge de Pergame, le Seigneur dénonce 2 doctrines qu'il est, 189-3. 1. La doctrine de Balaam qui, à Baal Péor, a introduit en Israël l'idolâtrie et les excès coupables. Ainsi, la doctrine de Balaam qui est de continuer à demander à Dieu jusqu'à ce qu'il vous donne sa volonté permissive, vise un objectif, et c'est le salaire. Ils ont erré pour un salaire dans la doctrine du Balaam. C'est le motif des gens qui Néhémie cesse d'aller à Dieu pour avoir une réponse différente de celle qu'il vous donne une fois pour tout et qui devrait suffire. Dans son serment La Semence du Discorde le 18 janvier 65, frère Branham dit, 55 Esther ce qui s'est passé. L'Église venait à peine de sortir de l'Égypte. Depuis quelques jours, elle était en marche et que s'est-elle il passait? Satan est-elle venu avec sa discorde dans la personne du second quin? S'est-elle à dire Balaam? Et il a semé la discorde parmi eux. Nous savons que s'est-elle vrai. En effet, Balaam, l'enseignement de Balaam, c'était, nous sommes tous pareils, nous servons le même Dieu que vous. Fondamentalement, il avait raison. En effet, il a offert un sacrifice que Dieu avait ordonné. 7 béliers, 7 taureaux, sur 7 autels. Et il a prié le même Dieu, de façon aussi parfaite que Moïse là-bas dans le désert. C'était tout à fait pareil. Mais il n'était pas pareil. Tout cela préfigurait, pour nous, ce qui arriverait. C'était encore la qu'un, manifesté dans la personne du Balaam. Et il y avait Dieu, manifesté dans la personne de Moïse, qui interprétait ses paroles à travers un être humain, qui se faisait connaître lui-même, sa promesse, à travers un être humain. Et la discorde a surgi. 56 Et il y a eu la même chose du temps de Judas. Il est revenu avec sa discorde. On nous dit que les 2 esprits seraient si proches, au temps de la fin, que tous seront séduits par cela sauf les élus de Dieu. Si proches? Oui. Ils adorent pareillement, chantent les mêmes chants d'un même recueil de cantiques, offrent les mêmes sacrifices, posent les mêmes actions, parlent de la même manière, marchent de la même manière. Cependant, L'un a le Saint-Esprit, et l'autre Néhémie l'a pas. Il a un soi-disant Saint-Esprit, mais tout comme Balaam a rassemblé les gens à Baal-Péor, et leur a enseigné de chercher les excès et les a conduits dans la fornication. De même la doctrine de Balaam a conduit ce mouvement de Dieu sous l'autorité de la colonne de feu dans les excès et dans la doctrine de la fornication. Dans son sermon les dix vierges jeudi 11 décembre 60 M 159 maintenant, vous souvenez que chacune d'elles était en route pour aller à la rencontre de l'époux. Eh bien, si Dieu Néhémie considérait que cela, alors il devrait les prendre aussi. 160 Mais souvenez-vous de la même chose, la parabole de l'autre soir, quand Dieu nous a parlé de cet âge de l'Église et a dit que Balaam, la doctrine Balaam. Eh bien, il y avait là Balaam, qui était une belle et une très grande nation organisée. Ces gens croyaient en Dieu, car regardez ce que fit Balak lorsqu'il vint là, plutôt Balaam. Il offrit exactement le même sacrifice qu'Israël, exactement au même Dieu, le Dieu d'Israël, Jéhovah. Et il bâtit cet autel. C'est Esther le chiffre de l'achèvement de Dieu. À nouveau dans son serment le résultat de la décision Sam 8 octobre 55-60 Balaam était tout aussi orthodoxe que Moïse. Écoutez donc, voilà cet autel. Cet sacrifice pur, cette belle à offrir comme holocauste sur la colline, avec toutes les célébrités, les souverains sacrificateurs ou je n'ai mis c'est quoi d'autre, eux tous se tenaient tout autour des sacrifices fumants, en train de prier Jéhovah Dieu. Tout était parfait selon l'exigence de Dieu. Dieu exigeait cet autel, cet sacrifice. Quiconque croyait que le Messie viendrait offrir un bélier, en holocauste pour cela, croyant qu'il était l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Ils étaient très orthodoxes. Maintenant, écoutez. Voici ici sur la colline une bonne nation organisée des gens. Tous croyaient en Jéhovah Dieu. Ils avaient un très bon prédicateur, un éminent érudit, instruit, qui se tenait là avec toutes les célébrités tout autour de ces feux qui fumaient, tout aussi scripturaire que possible, orthodoxe dans chaque parole. Là en bas, dans la vallée, il y avait un groupe de gens qui n'avaient pas de patrie où aller. Ils disaient qu'ils étaient des pèlerins et des étrangers. Ils n'étaient pas organisés. Ils habitaient dans des tentes, et ils avaient cet autel, cet taureau, et cet bélier. Quant à être orthodoxe, l'un était tout à fait comme l'autre. Si Dieu n'exige de nous que d'être orthodoxe vis-à-vis de la parole, alors il aurait tort de condamner Moab et d'accepter Israël. Et dans son sermon je resterai dîme 20 juin 54 p47, voyez-vous comment ces deux-là évoluent ensemble? Ils étaient là, toujours ensemble jusqu'ici donc. L'un était fondamentaliste, tout aussi fondamentaliste que Cain, tout aussi fondamentaliste qu'Abel. Et ils sont ici tout aussi fondamentalistes que Moïse. Balaam l'était aussi, tous les deux, le même sacrifice. Peut-être que je pourrais l'exprimer comme ceci, pour aujourd'hui, tous les deux lisaient la même Bible. Qu'est-ce ce qui faisait la différence? S'ils étaient fondamentalistes, s'ils étaient membres d'église, s'ils croyaient en Dieu, ils n'adoraient pas une idole. Ils adoraient Dieu, ils adoraient le même, Dieu. Mais ce qui faisait la différence, c'était le fait qu'Israël avait la gloire. Ici en bas, il avait des signes, des prodiges, des miracles, tandis que les autres n'avaient que le fondamentalisme. Voyez-vous? Alléluia! Ils avaient la colonne de feu suspendue au-dessus d'eux. Ils avaient des signes et des prodiges dans le camp. Et quand ils tombaient malades, ils avaient le rocher qui guérit. Alléluia! Dieu confirmait son peuple. Tous les deux étaient fondamentalistes. Mais il a dit, voici la chose. Dieu fait la même chose aujourd'hui. Alléluia. Cette vigne Esther est en train de pousser. Ça traverse les nuages maintenant. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Le Dieu de ces étages mauvais dîme 1er août 65 120 a remarqué. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Lorsque tous essayaient de se marier. Maintenant observez. Les fils de Dieu se marièrent avec les jolies filles des hommes. Et Dieu n'aimait le leur a jamais pardonné. C'était exactement comme dans l'enseignement de Balaam, par lequel il a amené les jolies femmes intellectuelles et scientifiques de Moab avec leurs yeux attirants, leurs fards, leur poudre et leur bon parfum. À séduire les fils de Dieu qui se sont retournés de leurs propres femmes travailleuses aux mains calleuses et qui n'aimaient se maquillaient pas. Elles les séduisirent en disant, marions-nous, car nous sommes tout un même peuple. C'était là un mensonge. C'était un mensonge et une œuvre du diable, pour entraîner les fils de Dieu à se marier avec les filles des hommes. C'était un mensonge du diable, pour Balaam, ce faux prophète, d'essayer de prophétiser contre Moïse, qui essayait de maintenir la race unie, et cela en disant, eh bien, nous croyons en un même Dieu. Nous donnons les mêmes offrandes. Nous avons les mêmes sacrifices. Nous faisons tout de la même façon. Tellement proche que cela séduirait les élus s'il était possible. Voyez-vous? Sortez du milieu d'elle. Vous n'avez rien à voir avec elle. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, janvier 2022. Veuillez adresser toute correspondance, ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.